partage. Catherine Parizeau.
Bonjour à tous. Dans l'opinion publique, on sait aujourd'hui que nombre de femmes sont victimes dans le cadre familial de violences physiques et ou sexuelles, de harcèlement moral et de tout un tas de sévices qui peuvent éventuellement, malheureusement, entraîner la mort. Mais sait-on que seules 16% des victimes portent plainte? Alors une foule de questions se posent en fait à ces victimes de violences. A-t-on le droit de quitter le domicile familial? Comment protéger l'enfant d'un père violent vis-à-vis de sa mère? Peut-on le faire dans le cadre de la loi? Et puis, comment surmonter aussi les nombreux obstacles financiers? Et alors, c'est pour tenter de répondre concrètement à ces questions que je reçois aujourd'hui avec plaisir deux avocates, Maître Mi Kim Yang Paya et Céline Marcovici du bureau de Paris. Et elles sont respectivement présidente et secrétaire générale de l'association Avocats, Femmes et Violences. Bonjour mesdames.
Bonjour, bonjour madame.
Et vous venez de publier un guide juridique intitulé « Le guide juridique des femmes victimes de violences » aux éditions de l'ALMA. Et c'est manifestement un ouvrage donc court, pratique, et qui est le fruit d'une longue expérience. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle a été votre motivation première, en dehors du travail de l'association, pour arriver à écrire ce guide?
Alors je vais peut-être répondre. Bonjour, Mi Kim Yang Paya. Je suis donc présidente de l'association Avocats Femmes et Violences que j'ai fondée en 1997.
Donc, oui, pendant, donc là, il y a du recul.
Voilà.
Là.
Donc pendant plusieurs années, nous sommes battus avec d'autres avocates, avec des avocats et également avec un procureur à l'époque qui était Madame Bernard Requin, qui avait souhaité nous réunir et demander aux avocats sensibiliser aux violences faites à l'encontre des femmes, si nous n'avions pas une idée de nous fédérer et de créer cette association. Nous avons donc créé cette association, nous avons rencontré d'autres associations qui dispensent de l'hébergement, des conseils aux femmes victimes de violences, et nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Notamment, à l'époque, la main courante était très usitée. Il fallait se battre pour avoir le droit de porter plainte dans un commissariat, dans une brigade de gendarmerie. Au sein des urgences médico-judiciaires également, nous avons obtenu que l'accueil se fasse de façon différenciée entre l'auteur des violences et la victime des violences. Et petit à petit, à Paris, c'est vrai que les choses ont bien évolué, puisque au sein des commissariats, il y a des référents qui font un accueil particulier de ces femmes victimes de violences, qui sont meurtries, qui ont souvent du mal à parler, et on les guide dans le cadre d'un parcours.
Et ça, c'est une chose qui est très mal connue. Et là, c'est déjà la première information qu'on livre à l'antenne, là. Je veux dire, cette présence des référents, parce que, en fait, au départ, ces femmes sont épouvantablement isolées.
Tout à fait. Mais pour terminer, justement, répondre à votre question, puis après, je laisserai Céline Marcovici, qui est co-auteure de ce livre, et a énormément contribué, et secrétaire générale de l'association. C'était pour vous répondre pourquoi nous avons voulu écrire ce guide.
Oui.
Parce que tout au long de ces années, nous avons donc compilé effectivement toutes ces questions que nous posent ces femmes, puisque nous tenons une permanence téléphonique gratuite, les lundis, mardis et jeudis de 15h à 19h.
Je vous interromps juste une petite seconde pour donner le numéro de téléphone, le 0820 20 34 28, permanence téléphonique gratuite les lundis, mardis et jeudis de 15h à 19h.
Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Et donc, après avoir compilé toutes ces questions, on s'est dit, on a envie d'écrire un guide, mais pas un guide que juridique, un guide de vulgarisation, c'est-à-dire que quand vous ouvrez ce guide, c'est destiné aux femmes victimes de violence, c'est destiné aussi aux tiers, aux proches, pour éviter tous ces drames que nous avons vus dernièrement, c'est-à-dire arriver jusqu'à un meurtre abominable, donc que vous puissiez, soit vous, femme victime de violence, soit vous, témoin de femmes victimes de violences, donner les premiers conseils et les démarches à suivre. Et souvent, on a peur de franchir la porte d'un commissariat parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer ensuite.
Alors que c'est justement ça qui est bien dans ce livre. Là, il y a des intertitres, des têtes de chapitres avec des questions. Comment engager les poursuites ou des choses, mais alors très vraiment très concrètes, tribunal correctionnel ou assises. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et en plus, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que sur votre site de votre association Avocats Femmes et Violences, il y a en plus la possibilité de télécharger le guide. Ce qui peut être aussi un accès possible à une femme qui n'aurait peut-être pas envie de rentrer à la maison avec ce guide et le mari violent ou le compagnon violent qui tombe dessus. Enfin, disons que ça multiplie les voies d'accès.
Exactement, c'était également un des objectifs de ce guide, c'est-à-dire déjà d'une part rassembler tous les droits de ces femmes victimes de violences, les porter à leur connaissance, même si, il faut le dire, hein, c'est les violences faites aux femmes. On a eu une prise de conscience par les pouvoirs publics, oui, assez tardive. Et effectivement, on a des informations qui circulent, sur Internet, mais c'est pas expliqué de manière précise.
Et puis c'est fragmentaire.
Le jargon juridique est assez difficile. Ouais.
Et puis c'est fragmentaire, Internet en plus, on a une réponse à une question, mais on n'a pas la réponse à la question qu'on se pose, tandis que là on a tout là sous la main.
Exactement, et d'ailleurs dans notre guide, on a commencé pour, ça a tout de même une vocation assez pédagogique, on a commencé par donner des exemples concrets de différents cas de violence, que ce soit des violences physiques, des agressions sexuelles, violences psychologiques, et pour que les femmes puissent se repérer, à travers ce guide, et d'ailleurs nous avons dissocié la partie pénale, parce qu'il faut le dire, il y a l'aspect pénal des violences, mais il y a également dans le cadre des violences intrafamiliales, l'aspect civil, et notamment toute la procédure devant le juge aux affaires familiales, et je pense qu'on y reviendra, comment protéger son enfant.
Voilà, parce que là, c'est violences. Vrai qu'on ne peut absolument pas dissocier les enfants de cette question des violences aux femmes. Et là, j'apprécie vraiment cette approche qu'on a quelquefois tendance à oublier. Et alors, on disait tout à l'heure que les femmes en question étaient très isolées et que quand elles arrivent au commissariat, qu'est-ce qui leur arrive ? Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, quand elles arrivent au commissariat, en général, elles devraient être bien reçues.
Pour commencer.
Ça, c'est dans un monde idéal.
Voilà.
Donc, je le disais, à Paris, en revanche, j'ose espérer qu'elles sont bien reçues dans tous les commissariats. Ce d'autant qu'il y a eu des formations qui ont été dispensées aux officiers de police judiciaire, aux magistrats, au personnel de santé, pour sensibiliser aussi cette partie du parcours, en fait, les intervenants de ce parcours aux violences faites à l'encontre des femmes. Donc en principe, elles demandent de porter plainte, et elles peuvent porter plainte dans n'importe quel commissariat de leur choix, d'ailleurs, ça, il faut que je le rappelle, vous n'êtes pas obligé de porter plainte au commissariat de votre domicile ou du lieu où a eu lieu.
Ce qui peut être quand même intéressant si on veut protéger son anonymat, enfin, ou du moins se protéger.
Oui, ce que vous voulez dire, c'est surtout pas son anonymat, mais surtout
ne pas être connu dans le quartier.
Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Il y a également la possibilité, justement, je voulais juste ajouter, si la femme victime de violence se heurte à une difficulté au commissariat, c'est-à-dire qu'on va refuser tout simplement et malheureusement de prendre sa plainte, la femme victime de violence a la possibilité de déposer plainte directement auprès du procureur de la République.
Alors, comment elle fait ?
Alors, c'est une lettre, en fait, une lettre recommandée de préférence, où elle expose tous les faits, où elle relate qu'elle est victime de violence, de la part de son concubin conjoint notamment, et elle va produire à l'appui de cette lettre tous les justificatifs qui permettent de prouver, c'est-à-dire notamment et essentiellement les certificats médicaux.
Voilà. Et là, ce qui apparaît très bien dans la lecture de votre guide, c'est que dans les certificats médicaux, il est intéressant aussi de faire apparaître l'ITT.
Exactement, parce que ça a une conséquence directe déjà d'une part sur la qualification de l'infraction, hein, que ce soit un délit ou un crime, mais également sur la peine d'emprisonnement que va encourir l'auteur de violence.
Alors là, il y a un tableau à double entrée qui est absolument formidable, à la page 77 du guide. Quelles sanctions peuvent être encourues par l'auteur des faits? Et donc, vous avez les infractions. Et dans l'intitulé, à chaque fois, violence ou infraction, etc., ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. Et ça, je crois que certains médecins, je me demande s'ils le savent, ça.
Alors, je vais peut-être répondre là-dessus, parce que c'est important de savoir que quel que soit le taux d'incapacité de travail, c'est un délit de frapper... sa compagne, son ex-compagne, ex-paxé, quel que soit le taux d'incapacité. Hein. Nous avons mis effectivement au sein du tableau l'ITT supérieur à 8 jours, mais en revanche, en matière de violence intrafamiliale, quel que soit l'ITT, vous passez dans le tribunal correctionnel.
Voilà. Hein. Voilà. Et donc...
Et pour revenir là-dessus, donc pour la suite, effectivement, une fois que vous avez porté plainte, on va vous demander d'aller aux urgences médico-judiciaires pour faire justement établir ce certificat qui va notamment noter l'incapacité totale de travail, qui n'est pas une incapacité de travail, qui n'est pas un arrêt maladie pour travail.
Voilà, ce sont deux choses différentes.
Ce sont deux choses totalement différentes. Et c'est une incapacité aussi qui est quantifié, notamment également dans le cadre d'un préjudice également psychologique, traumatisme post-traumatique, qui est très important et qui est chiffré et qui permet ensuite aussi, dans le cadre, une fois que vous avez porté plainte, de saisir également si vous avez une incapacité supérieure à 30 jours la commission d'indemnisation des victimes d'infraction.
Ah oui, alors ça aussi, ce sont des choses à savoir et là vous avez toutes les coordonnées dans le guide. Et justement, pour cette question de porter plainte, avant même d'avoir porté plainte, parce qu'il peut se passer un temps très long, entre le moment où on pense porter plainte et le moment où on se décide à porter plainte, vous avez employé le terme tout à l'heure de justificatif.
Oui. Et oui, alors, tout à fait. Alors, c'est vrai que la première démarche, et on l'a souvent évoqué parfois, si vous voulez, le premier interlocuteur, ça va pas être directement le commissariat de police. Parfois, la femme victime de violence va avoir le réflexe d'aller voir son médecin, et notamment son médecin traitant, qui va pouvoir lui-même attester des violences.
Oui.
Et il y a une question qui se pose et qui est très, très pertinente dans ces cas-là. Qu'est-ce que fait le médecin s'il constate donc que sa patiente est victime de violence, mais qu'elle ne lui dit pas clairement, parce que c'est bien souvent le cas. Donc, est-ce qu'il peut révéler ses faits qui constituent une infraction? Est-ce qu'il a l'obligation de révéler ses faits? Il s'avère que selon la législation actuelle, le médecin, le professionnel de santé, ne peut pas, sans l'accord express de sa patiente, révéler ses faits et faire un signalement directement auprès du procureur de la République.
Voilà, alors ça, c'est important.
C'est l'une des difficultés, oui.
Et c'est une des difficultés, justement.
Même si la loi, elle a évolué depuis novembre 2015, parce que les sages-femmes aussi se sont retrouvées face à ces difficultés. Aujourd'hui, elles peuvent, parce qu'avant, c'était uniquement le médecin.
Oui.
Mais depuis novembre 2015, les sages-femmes peuvent, c'est toujours pareil, avec l'accord de la victime, dénoncer directement ces faits au procureur de la République. Mais en tout cas, parfois, c'est vrai, pour en revenir à votre question, parce que j'ai un peu dévié.
Non, mais c'est très important tout ça.
Le premier interlocuteur, ça peut être directement le médecin et non pas le commissariat de police.
Et en attendant, la victime, pour surmonter la blessure narcissique quand même, parce que c'est aussi avouer l'échec complet de son couple, ou ça peut être la honte, ça peut être aussi la peur aussi de retourner à la maison quand on a, une fois qu'on a déposé plainte, ou ne serait-ce même qu'une main courante. C'est là peut-être que le travail des associations en amont peut-être est intéressant. Pour déblayer un petit peu le terrain, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez
Oui, tout à fait. Il faut, en fait, ce qui est très important, c'est organiser cette décohabitation.
Voilà.
C'est très important, puisque pour éviter des drames, il faut qu'on arrive effectivement soit éloigner l'auteur des violences, soit protéger la femme victime de violences et qu'elle puisse être hébergée au sein d'associations qui dispensent de l'hébergement, notamment avec les enfants également.
Oui, alors parce qu'évidemment, les enfants, comme on le disait tout à l'heure, ne peuvent pas être dissociés de ce... de cette difficulté.
Absolument pas, parce que je me souviens d'ailleurs quand j'avais constitué cette association, à l'époque il y avait une association qui ne pouvait pas recevoir les enfants et elles avaient retrouvé justement un matin cette femme à la porte de l'association morte avec son enfant dans les bras. Et après elles ont milité justement pour pouvoir recevoir au sein de l'association femmes et enfants.
Et donc là, vous avez là encore plein de coordonnées qui sont données à la fin de l'ouvrage de, dont je rappelle le titre, « Guide juridique des femmes victimes de violences », qui est paru aux éditions de l'ALMA. Hein. Et vous avez également aussi dans les au CCAS, dans les, vos mairies, vous avez aussi des dépliants.
Exactement, oui. Auprès des conseils départementaux également.
Voilà, les conseils départementaux. Et puis vous avez aussi à Paris, alors tout ce qui est Paris aide aux victimes, le centre psychotrauma de l'hôpital Tenon, enfin il y a une foule de possibilités. Alors c'est vrai que là encore une fois, à la campagne, les femmes sont quand même beaucoup plus isolées, ça c'est vrai.
Ça c'est vrai puisque en fait vous avez la possibilité de porter plainte dans la brigade de gendarmerie la plus proche.
Voilà.
Et dans un village, forcément, vous n'avez pas forcément d'abord un permis de conduire, vous pouvez pas vous déplacer facilement. Et puis c'est très compliqué parce que vous connaissez le brigadier de gendarmerie.
Voilà, c'est le copain de votre mari, quoi. Par exemple.
Je n'irai pas jusque là, mais ça peut arriver.
Ça
peut arriver. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué effectivement de porter plainte. Et comme le disait Céline Marcovici. Dans ces cas-là, on conseille d'appeler le substitut de permanence du tribunal de grande instance dépendant de votre domicile et de faire part de votre volonté de porter plainte.
Et à ce moment-là aussi, avoir peut-être un petit réseau d'amis proches qui vous donneront l'accès au téléphone si, ou Internet, si votre conjoint vous en a privé, parce que ça arrive aussi, ça. Il faut organiser des relais, même déjà au niveau des proches.
Oui, c'est important au niveau des proches, de bouche à oreille, de gens qui puissent vous conseiller. Et puis, nous avons notre permanence. Et
alors, bien
on
sûr.
Peut nous appeler.
Bien sûr. Et alors, une fois qu'on a franchi cette étape, il y a après tout ce qu'on peut quand même appeler un parcours du combattant. Entre les différentes procédures, les différentes instances et les différents interlocuteurs, parce qu'il y a les travailleurs sociaux, il y a le juge des enfants, il y a le juge aux affaires familiales. Alors, un certain nombre de conseils sont donnés très très précisément dans le guide, mais là, à l'antenne, qu'est-ce qu'on peut dire déjà en résumé ?
Exactement. Alors c'est vrai, comme vous l'avez dit, il y a tout un cheminement et c'est un cheminement judiciaire, donc. Un peu long et laborieux, c'est bien de savoir où on va.
Voilà.
Tout d'abord, voilà, une fois qu'on a déposé la plainte, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une enquête, normalement, qui va être diligentée, donc, par les officiers de police judiciaire, toujours sous le contrôle du procureur de la République. Alors, cette enquête, elle va se manifester notamment par une enquête de voisinage, déjà.
Oui.
Les officiers de police judiciaire vont se rendre aux alentours du domicile, voir si les voisins ont entendu des cris à répétition, etc. Et notamment la fameuse confrontation, qui est souvent un moment un peu, très difficile pour la victime. Et toute cette enquête va ensuite déboucher soit à une poursuite judiciaire de l'auteur des violences, ou soit, ça peut arriver, c'est la réponse minimale qui va être apportée à cette dénonciation, un classement sans suite. Alors c'est vrai que aujourd'hui, la politique actuelle, et notamment à travers le quatrième plan interministériel, l'objectif, c'est véritablement de donner suite à cette dénonciation de violence. Alors, ça, c'est vraiment le cas où, malheureusement, la femme victime de violence n'aura pas pu apporter la preuve de sa violence, et d'où la nécessité de faire constater, ne serait-ce que par des photos, en fait. Quand c'est des violences physiques, faire constater notamment par des photos, et également faire constater essentiellement par un médecin.
Oui.
Son médecin traitant ou un urgentiste ou voilà. tout médecin.
Et c'est vrai que là, avec le progrès des portables, c'est vrai que les photos sont faciles à prendre maintenant, beaucoup plus qu'auparavant. Et c'est vrai que c'est puissant comme méthode.
Alors moi, je voudrais avoir une petite note un peu plus optimiste. Oui. Hein. Je veux pas faire peur justement aux femmes victimes de violences. Il faut aller porter plainte et je pense qu'en assistant, si vraiment, de toute façon, si vous portez plainte, vous avez été frappé, vous êtes meurtri psychologiquement, il faut que l'officier de police judiciaire organise immédiatement l'éloignement du voilà. conjoint violent. Hein. Et ça, on peut le faire en amont, justement, comme vous dites, il y a des associations qui peuvent vous aider à constituer votre dossier, à vous accompagner éventuellement le cadre de ce parcours.
Et puis à savoir où partir en cas d'urgence
voilà,
aussi. Si on a déjà pris les contacts avant, c'est peut-être moins difficile. Enfin, je suppose.
Il faut savoir juste pour, dans le prolongement de ce que disait Miki Myang-Paya, effectivement, l'éloignement, et ça c'est important de le savoir, peut être prononcé tout au long de la procédure pénale.
Ah,
donc peu importe
aussi.
Le stade, qu'on soit au stade de l'enquête ou s'il y a une information judiciaire qui va être donc une procédure d'instruction hein, qui va être diligentée par le juge d'instruction, à tout moment de la procédure, et même quand bien même on aurait une mesure alternative aux poursuites, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de poursuite mais une mesure, soit un rappel à la loi, etc., ça va être une mesure possible, l'éloignement. Donc c'est véritablement très important d'aller déposer plainte et non pas une simple main courante, parce que c'est ce qui va permettre la protection de cette femme.
Alors, il y a la plainte et puis il y a aussi le pan civil, notamment avec l'ordonnance de protection qui a vu le jour en 2010.
Oui. Donc, vous voyez, ça bouge quand même, voilà, la mise auditeur.
Qui est très usité, donc qui permet de rencontrer très rapidement un juge aux affaires familiales qui va convoquer les deux parties, puisque le débat est contradictoire. Va ordonner les mesures que la femme va solliciter et que les mesures qu'elle va solliciter. Donc c'est très important de bien détailler sa requête et notamment l'éloignement en tout cas, l'éloignement du conjoint violent pendant... Alors l'ordonnance évidemment est limitée dans le temps, 6 mois, mais c'est bien qu'il y ait cette ordonnance. Hein. C'est calqué d'ailleurs sur l'Espagne, puisque à l'époque la France avait été un peu, on lui avait un peu tiré l'oreille en tant que
au niveau européen,
puisque la CEDH trouvait que la France ne prenait pas des mesures concrètes pour protéger les femmes victimes de violences.
Et est-ce que ça n'handicape pas toute cette procédure, le fait qu'il y ait le juge des enfants d'un côté, le juge aux affaires familiales de l'autre? Est-ce qu'il n'y a pas des dossiers qui se perdent en route?
Alors, attention, parce que la saisine du juge des enfants ne va pas être systématique dans ces dossiers.
Alors,
et là,
voilà.
Encore une fois, je voudrais rappeler la nécessité, je sais, je le redis, mais c'est extrêmement important, la nécessité d'aller déposer plainte. Pourquoi? Par rapport aux enfants. Parce que si la femme victime de violence ne prend pas cette initiative, parce que le fait de déposer plainte, finalement, ça revient à protéger aussi sa famille, ses enfants. Quand est-ce que le juge des enfants est saisi? Il est saisi par le biais d'un signalement. Donc, qui est fait notamment, alors ça peut être un signalement en cas d'urgence directement au procureur de la République, qui va lui-même pouvoir, c'est dans ses compétences, va pouvoir ordonner le placement de l'enfant et ensuite va saisir le juge des enfants. Mais ça va être le cas lorsque la femme reste dans ce cercle vicieux et ne sort pas de ces violences.
Et oui.
Voilà, donc c'est véritablement important. Et là, le juge des enfants, effectivement, si elle reste murée dans son silence, elle reste au domicile et continue de subir ces violences, on estime que l'enfant est en danger, hein, quand bien même il n'est pas victime directe de ces violences, mais c'est une victime collatérale, il n'a pas à subir ce quotidien.
Oui.
Et donc, effectivement, le juge des enfants va pouvoir aller jusqu'à la mesure extrême de placer l'enfant pour pouvoir le protéger, parce que la mère, malheureusement, n'aura pas pris la décision d'aller déposer plainte et de s'en sortir.
Alors justement, cette question du placement des enfants, est-ce que ça ne peut pas être une peur qui empêche la mère de bouger?
Non, il faut pas qu'elle ait peur, parce que justement, si elle réagit rapidement, il n'y aura pas de placement de l'enfant. Il y a placement de l'enfant si l'enfant est en danger.
Hein. Voilà.
Donc justement, il faut, je le rappelle, il faut s'éloigner du conjoint violent.
C'est
dans l'intérêt de l'enfant, dans votre intérêt, dans l'intérêt même du conjoint violent, pour pas aller jusqu'à l'extrême et jusqu'au meurtre. Hein. Alors pour revenir sur les, justement, il faut savoir que l'ordonnance de protection, quand vous sollicitez une ordonnance de protection, de toute façon le juge aux affaires le ministère public est partie prenante.
Oui.
Hein, donc lui aussi va transmettre le dossier pénal, hein, oui. S'il y a un dossier pénal. D'ailleurs souvent ça s'appuie sur un dossier pénal et on en revient à cette plainte pénale.
Oui.
Voilà.
Oui.
En
oui.
revanche le juge aux enfants lui est complètement et le juge suprême pour les enfants, mmh. hein, quelle que soit la décision prise par le juge aux affaires familiales,
oui.
c'est la décision du juge aux enfants qui primera.
Et ça, c'est bon à savoir aussi, justement, dans ce film-là que vous déroulez, si je puis dire, à travers ce guide, ce film des différentes étapes, savoir qui fait quoi, quel moment, et quel est le pouvoir de l'un et le pouvoir de l'autre.
Exactement. Oui, chaque juge, en tout cas, voilà, a sa compétence. Mais on en revient toujours au même postulat, à savoir le dépôt de plainte, parce que même si l'ordonnance de protection ne nécessite pas, en tout cas, c'est l'esprit même de la loi, ne nécessite pas un dépôt préalable de plainte, en pratique, on le voit, voilà. lorsqu'on plaide devant le juge aux affaires familiales, c'est impératif qu'il y ait un dépôt de plainte au préalable.
Et le mot en pratique de la part de Céline Marcovici et Miki Meyang Paya, ça vaut son pesant d'or. Suivez ce conseil, en dépit de toutes les difficultés. Et alors, les dossiers qui se perdent, ça arrive ?
Les dossiers qui se perdent, ça peut arriver, mais c'est plutôt des dossiers qui traînent, je dirais.
Voilà, voilà, hein voilà.
Ouais. Plutôt des... Donc on peut les réactiver.
Oui. Hein,
on peut les réactiver, justement, écrire, comme on l'a précisé, oui. alerter le procureur de la République du fait qu'il y ait des plaintes, qu'on ait porté plainte, il ne se passe rien. Ouais. Qu'est-ce que j'attends ?
Oui, donc savoir qu'on est parti pour un voyage au long cours et quand même éviter ces conclusions désabusées que j'ai entendues. Oui, bon, bah, il a fallu que j'attende que mes enfants aient 13 ans pour qu'enfin ils soient crus, que les preuves aient du poids et que ça puisse enfin bouger. Commentaire.
Non, il faut pas attendre, voilà. Faut pas attendre que l'enfant ait 13 ans. Faut pas en arriver là parce qu'on le voit malheureusement à travers l'actualité.
Voilà.
Non, il faut pas attendre. Faut que ça soit, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais faut que ça soit un réflexe de dénoncer ces violences.
Oui.
Parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Et de toute manière, il faut rappeler hein, que n'importe quelle violence, que ça soit physique, parce qu'on a essentiellement évoqué les violences physiques, mais également psychologiques, au quotidien, sont des infractions et doivent être dénoncées immédiatement.
Et alors, parce que là, le temps nous s'écoule. Dans le guide, vous trouverez aussi des conseils concrets, là encore, sur la dimension financière de tout ce dossier. Et alors, je voudrais donc rappeler les références de ce guide juridique des femmes victimes de violences, et coécrit par Miki Meyang Paya et Céline Marcovici, avocate au barreau de Paris, et également présidente et respectivement secrétaire générale de l'association Femmes. Avocat Femmes et Violences, et je rappelle le téléphone de l'association 0820 20 34 28, 0820 20 34 28. Vous allez sur le site aussi, afv-asso.com, et vous y trouverez aussi une version numérique de ce guide juridique des femmes victimes de violences. Merci beaucoup, Miki Meyang Paya et Céline Marcovici.
Merci à vous.